France Culture.
Ils ont changé le monde. Les envahisseurs. Alfred de Montesquieu.
Vous aurez certainement reconnu la musique de la série télévisée Les Envahisseurs. Dans notre cas, ce ne sont pas des martiens, mais bien des êtres humains. Violents, conquérants, dominateurs, ils ont redessiné les frontières au gré de leurs ambitions, brassé les peuples, les idées, les langues et les religions. D'Alexandre le Grand à Hirohito, en passant par Attila, Gengis Khan ou la reine Victoria, ils ont conquis les plus grands empires de la Terre et, chacun à leur façon, ils ont changé le monde.
Une taille moyenne, ni trop grand ni trop petit, il est blond, plutôt pâle que rubicon. Bien proportionné dans ses membres, le nez un peu aquilin, les yeux avares, grave d'aspect, sans être sévère ou cruel. Ce qui le gâte, c'est le menton, et même toute la mâchoire inférieure qui est tellement longue et large qu'elle paraît postiche, de sorte qu'il ne peut fermer la bouche, et lorsqu'il parle, surtout lorsqu'il veut finir une phrase, il balbutie. Il est très adroit aux exercices. Son tempérament est, au fond, mélancolique, avec quelque chose de sanguin. Très religieux, très juste, sans vice. Pas le moins du monde enclin à la volupté. Il n'aime que les affaires et les conseils où il passe la plupart de son temps. Peu affable, plutôt avare que libéral. Il parle et est de nature modeste. Il ne s'enorgueillit pas dans la prospérité et n'est pas abattu dans l'adversité. Il ressent plutôt la tristesse que l'allégresse. Il se rappelle les injures qu'on lui a faites et ne peut les oublier facilement.
Sur son empire, le soleil ne se couche jamais. À la Renaissance, la Terre devient ronde et l'Europe projette tout autour du globe sa volonté de puissance. L'envahisseur que nous abordons aujourd'hui est le premier monarque intercontinental. Avec lui, l'exploration et la conquête sont démultipliées par les moyens techniques, par l'armement et la navigation. À la jonction du système féodal et des conquistadors, c'est l'héritier du domaine des Habsbourg et des royaumes d'Espagne, mais aussi le conquérant du Nouveau Monde. Né en 1500, mort en 1558, l'empereur Charles Quint incarne une nouvelle ère de l'histoire, celle de l'annexion coloniale. Et nous venons d'entendre son portrait dressé tout en finesse par Gasparo Contarini, un diplomate et cardinal vénitien, que nous a lu Daniel Koenigsberg. Pour saisir l'importance du basculement historique qu'incarne Charles Quint, mais aussi pour comprendre la psychologie d'un empereur qui, fait rarissime, s'est volontairement délesté de sa puissance et de ses territoires, j'ai autour de moi trois spécialistes du grand roi d'Espagne, du redoutable adversaire de François Ier. Carmen Bernand, bonjour.
Bonjour.
Louise Benatacho, bonjour.
Bonjour.
Et tout de suite, pour commencer à comprendre qui est vraiment Charles Quint, quelle est son identité, sa vision du monde, je me tourne vers mon premier invité, Guillaume François, bonjour.
Bonjour.
Guillaume François, vous êtes archiviste, paléographe, docteur en histoire de l'art et conservateur du patrimoine au Centre des archives diplomatiques. Vous êtes l'auteur de deux ouvrages sur la Renaissance, dont « Le rêve brisé de Charles Quint », publié en 2022 aux éditions Perrin.
Bien, merci pour cette invitation. Alors effectivement, Charles Quint, c'est un personnage qui est unique en son genre, qui a que très peu d'émules dans l'histoire de l'Europe et du monde, et qui naît à une époque très particulière pour l'Europe, notamment du fait que, comme vous le dites, il y a le mouvement des explorations qui est à l'œuvre de la part de l'Espagne, du Portugal notamment, depuis un bon siècle, et parce que à la naissance de Charles Quint, eh bien, il y a, on va dire, des faits qui semblent s'être penchés un peu sur son berceau et qui en ont fait un héritier de premier plan, puisque par une savante politique matrimoniale de ses grands-parents et de ses parents, il se retrouve peu à peu être l'héritier à la fois des Pays-Bas, autrefois bourguignons, oui, de l'Espagne, de l'Autriche et de tous les droits afférents.
Il faut peut-être expliquer, donc c'est l'héritier du d'un système féodal, il est quatre fois héritier de ses quatre grands-parents, en fait, c'est ça.
Tout à fait.
À la fois par les hommes, et on va y revenir, par les femmes, et c'est même d'ailleurs le plus important. Donc il est Habsbourg, c'est-à-dire quoi, autrichien, finalement?
Alors oui, ça c'est très théorique à dire vrai, parce qu'effectivement il a son grand-père qui est Habsbourg, mais en réalité il est élevé aux Pays-Bas, il est né à Gand.
Hein. Mais donc revenons, donc il est Habsbourg, son grand-père est empereur du Saint-Empire. Oui, il a une grand-mère qui est Marie de Bourgogne,
tout à fait,
qui est l'héritière donc, des Valois-Bourgogne, des Français de Bourgogne, des terribles ducs de Bourgogne de la guerre de Cent Ans. Et sa mère, Jeanne la Folle, pour ne pas la nommer, est donc l'héritière du royaume d'Aragon par son père Ferdinand et du royaume de Castille
par sa mère Isabelle. Oui,
qui sont donc les fameux
rois catholiques.
Voilà. Et donc il est héritier à la fois, si je comprends bien, de l'Empire, d'une agrégation, d'une coalescence médiévale, et puis il est l'héritier, donc c'est pas n'importe qui, Ferdinand et Isabelle la catholique, c'est les...
Oui, ce sont des souverains de premier plan et ce sont, à la fin du XVe siècle, j'ai envie de dire, les souverains en fait les plus en vue du continent. Ceux qui parviennent à mettre fin au mouvement de la Reconquista sur la péninsule ibérique avec la prise de Grenade en 1492. Et ce sont également eux qui sont, on va dire, les plus à la pointe de la lutte contre le monde musulman en général. L'Aragon... maîtrise toute la Méditerranée occidentale à la fin du XVe siècle et a des vues à la fois sur le Maghreb, sur le monde turc à travers le royaume de Naples et la Sicile. Et de fait, on est sur un double royaume qui a naturellement, à la naissance de Charles Quint, une énorme ouverture maritime sur le monde.
Oui, puisque, ne l'oublions pas, c'est quand même Isabelle la catholique et Ferdinand qui envoient Christophe Colomb découvrir... Les Indes occidentales.
Tout à fait, oui. Il agit sur mission des rois catholiques et ce, dans une compétition avec le Portugal. C'est le grand moteur ibérique à cette époque, l'expansion sur les mers.
Et je me tourne vers vous, Carmen Bernand. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un héritier du Moyen-Âge ou est-ce que c'est un homme de la rupture, un homme d'une bascule d'époque, selon vous?
Moi, je dirais qu'il est de la bascule de l'époque pour plusieurs raisons, parce que c'est l'époque elle-même, je crois, qui doit nous interpeller. Pour le XXe siècle, Hannah Arendt avait parlé de brèche. Une brèche, c'était les nazis, c'est quelque chose d'irréversible qui va changer complètement le monde, y compris dans les coins les plus éloignés. Alors, je vais rappeler cette brèche que on connaît, mais que dont il faut se percevoir l'ampleur. D'abord, il y a, ça commence vers 1450. D'abord, il y a l'invention de l'imprimerie. On parle toujours de cela, mais qu'est-ce que ça signifie? Vous rendez compte, si on devait faire une comparaison assez rustique avec aujourd'hui, c'est comme les ordinateurs. L'imprimerie, c'est une révolution gigantesque. Il y a cela, il y a la prise de Constantinople par les Turcs, et ça c'est très important, et peut-être tout à l'heure on parlera de Rhodes parce que c'est un lieu spécial. 1453,
il y a pourquoi est-ce que c'est si important? Ça fait basculer l'Occident vers l'Ouest, finalement.
Parce que les Turcs, c'est pas simplement les Moluscos qui étaient en Espagne, c'est tout de même des gens qui sont très belliqueux, qui sont très avancés, qui menacent, qui vont arriver jusqu'en Hongrie. Et donc, on a fait la Reconquista, on s'est débarrassé des pauvres Arabes hispanos qui habitaient en Espagne pour retrouver des gens, des adversaires bien plus forts. Et en plus que Constantinople représentait quelque chose aussi pour la chrétienté. Donc ça c'est énorme. Et puis il y a, on a parlé de la Reconquista, on va pas y revenir. Il y a Luther aussi. Et Luther.
Donc 1517, l'émergence du protestantisme, juste au moment où Charles Quint devient adulte.
Ça c'est énorme. Et toute sa vie, il va d'abord être contre, puis peut-être reconnaître un tout petit peu, etc. Bon, il y a des choses. Donc, ce sont des événements turbulents. Et je finis avec ça. Il faut pas oublier que avant le mariage de la reine de Castille et le roi d'Aragon, il y a en Espagne un désordre phénoménal dans cette région du centre-sud, les Banderillas. C'est des gens qui forment des groupes à part et qu'on va retrouver en Amérique.
Oui, parce que l'autre grande rupture, l'autre grande brèche, c'est évidemment le début de l'épopée des conquistadors, enfin l'expansion territoriale insensée vers l'Ouest.
Je vais dire une chose qui est incorrecte, mais qui peut illustrer les personnes qui nous écoutent. C'est un peu comme une anarchie contre le pouvoir. Et on va le retrouver de nouveau contre Charles Quint. Donc, on est dans une situation très spécial et unique.
Et du coup, Guillaume-François, je me retourne vers vous. Est-ce que, selon vous, Charles Quint grandit comme un homme de son temps, cet homme sur la brèche dont vient de parler Carmen Bernand, ou est-ce que, finalement, il est presque lui-même un peu un anachroniste par rapport à son époque? Est-ce que son éducation, sa formation, sa vision du monde est celle, finalement, d'un grand monarque de la Renaissance?
Alors, il faut avoir un point de vue un peu nuancé peut-être, parce que effectivement, je pense que son éducation relève davantage d'une éducation de prince du Moyen Âge. Pour autant, il n'est pas fermé à ce qu'on appelle l'humanisme, qui est quand même le grand mouvement intellectuel de la Renaissance. Et je pense que surtout, il est étranger en fait à son royaume d'Espagne, dont il est en 1516, et dont il ne connaît en fait quasiment rien quand il arrive dans le royaume. C'est surtout ça, en fait, le grand problème, c'est qu'il n'a pas été formé à la culture espagnole.
Hein. Oui, rappelons-le, donc il est pas du tout né en Espagne.
Il est né à Gand. Effectivement, dans les Pays-Bas, il y est passé toute son enfance et son adolescence. Il a été élevé par des précepteurs français et flamands. Donc, le monde espagnol, quand il le découvre en 1516-1517, c'est un monde qui est totalement étranger pour lui, et qui ne comprend pas.
Hein. Et quand vous parlez de précepteurs, il est notamment élevé par un précepteur qui va devenir le dernier pape non italien.
Oui, tout à fait.
Avant Jean-Paul II. Il est élevé au cœur de la chrétienté, quoi, d'une certaine manière.
Oui, tout à fait. Il a un précepteur de grand talent qui est Adrien d'Utrecht, qui entre à son service en 1507 et qui l'accompagne par la suite en Espagne quand il s'y rend au début de son règne et qui est un personnage auquel Charles Quint accorde une grande confiance puis qui finit par en faire son régent quand il s'absente de l'Espagne. Donc un grand lien entre quand même les milieux humanistes flamands et ce jeune roi d'Espagne.
Et Louise Benatacho, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut dire que le catholicisme, finalement, façonne sa vision du monde, sa géographie mentale, j'allais dire presque? Est-ce que c'est vraiment un conquérant, ou est-ce que, finalement, c'est quelqu'un qui aurait été assez content de structurer, d'aboutir le rêve carolingien d'une chrétienté européenne unie et pacifique?
Je pense qu'il faut envisager les choses d'une façon connexe et double en même temps. C'est-à-dire, d'un côté, je pense que sur l'Europe, et ça, on va en reparler, il a ce projet d'une chrétienté unifiée au niveau de l'Europe. Il prononce pas le mot Europe, c'est Laguna qui va le prononcer en 43. Mais il y a quand même l'idée de tous les États cette cascade d'États dont il hérite, qu'il faudrait les unifier, non pas politiquement sur le culte ou d'une façon, je dirais, culturelle, mais sur le plan de la religion. Et il a donc cette espèce de vision qu'on peut qualifier d'utopique, parce que ce sera un échec, puisqu'il ne va se heurter qu'à des oppositions, à commencer par celle de François Ier, mais pas que. Et par ailleurs, il a en même temps cette idée il hérite de l'idée de l'expansion du catholicisme des rois catholiques, parce qu'enfin, 1492, c'est le traité de Tordesillas. Et le traité de Tordesillas, c'est la répartition de la totalité du globe en deux, la moitié pour le Portugal, ça paraît ahurissant aujourd'hui, pas si ahurissant que ça, si on
veut
réfléchir.
C'est le grand pape des découvreurs et des navigateurs.
Voilà, oui.
Donc, même s'ils ont retourné Magellan, même si Magellan s'est retourné contre eux. Mais...
d'un côté, le Portugal, par une ligne qui est tracée de façon virtuelle et tout à fait stupéfiante, si on veut bien y réfléchir.
Un méridien.
Sur l'eau. Un 370 lieux des îles du Cap-Vert. Bon.
Et, pardon, pardon, je vous interromps, mais qui correspond grosso modo à la frontière orientale du Brésil. Hein.
C'est ça écorne le Brésil. Alors ça va les corner de façon, ça va les corner de façon variable, hein, selon, oui, la, selon les cartographes. Oui, et puis de l'autre côté, pire encore, ce qu'on va appeler la antiraya, c'est-à-dire l'antiméridien qui doit partager le monde au niveau des Moluques. Je vous raconte pas la difficulté de la chose quand on ne sait pas calculer la longitude.
Avec une idée sous-jacente que les Moluques, c'était les épices, c'était la vraie fortune.
C'est le vrai objectif.
Voilà.
Donc, si vous voulez, ce traité de Tordesillas, il répartissait le monde entre deux nations ibériques. Et Charles Quint, quand il arrive en 1517, et quand il va être plus tard élu empereur en 1519, il hérite de cette espèce de dynamique d'expansion légitimée par l'expansion du catholicisme. Donc, et là, on entre dans un cycle qui va être effectivement un cycle de conquête. Donc, si vous voulez, le registre de la projection impériale de Charles Quint, il se lit de façon différente selon qu'on regarde l'Europe et du côté du Turc et de l'Empire ottoman, ou selon qu'on regarde du côté de l'Amérique, où là, on a un continent qui va émerger de façon absolument inédite, puisque Colomb est absolument convaincu qu'il touche l'Asie.
Oui, oui. Et d'ailleurs, ces armoiries sont portées par un aigle bicéphale. On comprend bien ce côté presque un peu schizophrène du personnage qui regarde vers l'Est et vers l'Ouest. Et je me tourne vers l'Est.
Je conclue juste avec la devise qui orne ces deux colonnes, c'est plus ultre.
Oui.
C'est-à-dire, on va au-delà. Et c'est un plus ultre qui avait un sens moral, mais qui là prend un sens géographique.
Donc, il est quand même un conquérant, même si c'est un conquérant malgré lui, même si c'est un envahisseur malgré lui.
Oui, quand même.
Alors, je me tourne quand même vers l'Est, comme je disais, une dernière fois, vers Guillaume, François. Pourquoi ce clash structurel? Pourquoi cette confrontation structurelle avec François Ier? Qu'est-ce qui les oppose dans leur vision de l'Europe, dans leur vision du monde, dans leur vision du pouvoir?
Alors, il y a plusieurs
choses. Et ce qui m'amène quand même à votre livre, pourquoi ce rêve brisé Charles Quint.
Oui, eh bien, à dire vrai, le problème entre Charles Quint et François Ier, il est multiple. Il y a déjà un problème personnel, c'est que les deux personnages ont des caractères radicalement opposé. On a entendu la description de Charles Quint, qui était un personnage pas sinistre, mais quand même très grave, très sérieux, très austère. Et côté français, un François Ier qui est, on va dire, un flamboyant, fêtard, cavaleur, tout ce qu'on veut de bien français. Donc déjà, d'un point de vue personnel, ils ont rien en commun, donc ils ne peuvent pas s'entendre. Et ensuite, eh bien, ils ont des intérêts politiques totalement contradictoires. Charles Quint, par ses héritages et les ambitions espagnoles et bourguignonnes et Habsbourg, il a comme cadre mental l'idée qu'il est en quelque sorte prédestiné à réunir un jour les chrétiens autour de son trône. Le roi de France, à côté, lui, c'est le roi très chrétien, il a comme idée qu'il est le plus grand roi de la chrétienté. Donc, de base, on a deux ambitions politiques qui ne peuvent que s'affronter.
Et paradoxalement, enfin, on le disait, finalement, Charles Quint, c'est un être finalement très bicéphale, il regarde à l'Est, il regarde à l'Ouest, il est l'homme des Habsbourg, mais en même temps, quelle est sa culture profonde? Est-ce que dans le fond, il n'est pas presque français culturellement?
En quelque sorte, si, effectivement. Comme il est né aux Pays-Bas, il a passé toute sa jeunesse aux Pays-Bas, eh bien, la langue qu'il a apprise à parler à la cour des Pays-Bas, c'est le français, en réalité. Donc, il est, en fait, largement nativement francophone, un peu néerlandais aussi pour parler, c'est quoi, ses conseillers flamands et domestiques, j'ai envie de dire. Et les autres langues, l'espagnol, l'allemand, même le latin, ça, il ne s'y met que très tard, en fonction des impératifs gouvernementaux. Donc, effectivement, culturellement, c'est un prince bourguignon, un prince quasiment français. Oui.
Rappelons qu'il disait lui-même avec un certain humour, je ne sais pas si la phrase est authentique ou pas, mais qu'il parlait allemand à son cheval, anglais aux oiseaux, français à ses amis, italien à sa maîtresse et espagnol à Dieu.
Effectivement, c'est une citation qu'on retrouve
européen.
Un peu partout. Oui. Un Européen, on va dire, dans un sens un peu ancien, peut-être, on va dire. Voilà, un polyglotte, un cosmopolite, mais pas européen au sens politique, on va dire.
Et dernière peut-être question pour comprendre sa psychologie, sa conquête. Est-ce que, pour vous, il est lancé là-dedans, c'est cet héritier qui assume, qui accomplit son héritage, qui d'ailleurs se bat pour son héritage, puisqu'il écarte même son petit frère des possessions. Ou est-ce que la conquête, la dimension vraiment conquérante dont on parlait, c'est-à-dire l'Ouest, et quelque chose qui le dépasse et qui se passe finalement presque malgré lui.
Alors, j'aurais tendance à dire qu'il y a un peu des deux, parce qu'effectivement, il y a ce côté héritier, où il poursuit l'œuvre, en fait, de ses parents et de ses grands-parents. Et d'un autre côté, il y a le fait que, eh bien, en dépit de sa volonté de poursuivre l'œuvre ancestrale, eh bien, il ne maîtrise, en fait, pas tout ce qui se passe au-delà des mers. Et ne serait-ce que par les délais de communication et de voyage, en fait, il subit beaucoup de choses. Il avalise après coup, ou il essaye de rectifier le tir après coup parfois, mais les conquistadors qu'il envoie en son nom conquérir l'Amérique, en réalité, ont une marge de manœuvre qui est très, très large. Et on ne peut pas dire qu'ils soient forcément raccord avec leurs actions et leurs visées. Hein.
Il défriche un peu le droit de la conquête, quoi.
Bien, en grande partie, effectivement, on a des théories médiévales qui circulent encore sur les notions de guerre juste et injuste, qui sont réactivées par les excès justement de la conquête, mais qui effectivement gagnent une nouvelle ampleur et une nouvelle force avec ces débats nouveaux et ces territoires nouveaux qui sont conquis.
Ce qui nous amène précisément à écouter notre deuxième extrait.
Éminence, notre Seigneur Jésus a dit « Je suis la vérité et la vie ». Je vais m'efforcer de dire la vérité sur ceux à qui nous sommes en train d'enlever la vie. Car c'est la vérité, nous sommes en train de les détruire. Depuis la découverte et la conquête des Indes, les Espagnols n'ont pas cessé d'asservir, de torturer et de massacrer les Indiens. Ce que j'ai à dire est si affreux que je ne sais pas par où commencer. Il y aurait là de quoi remplir un énorme livre.
Parlez à votre aise.
Depuis les tout premiers contacts, les Espagnols n'ont paru animés et poussés que par la terrible soif de l'or. C'est tout ce qu'ils réclament, de l'or. De l'or, apportez-nous de l'or. Au point qu'en certains endroits, les habitants des terres nouvelles disaient « Mais qu'est-ce qu'ils font avec tout cet or? Ils doivent le manger. Tout est soumis à l'or. Tout. » Aussi, depuis le début, les malheureux Indiens sont-ils traités comme des animaux, privés de raison?
France Culture, ils ont changé le monde. Les envahisseurs. Alfred de Montesquieu.
Nous venons d'écouter un extrait du film « La controverse de Valladolid » de Jean-Daniel Vérague, sorti en 1992, qui nous décrit l'un des moments pivots de l'histoire occidentale, celui donc du basculement vers la conquête coloniale et aussi de sa justification morale ou tentative de justification morale. Pour parler de l'action militaire et des accomplissements de Charles Quint, de cette épopée frénétique des conquistadors, je me tourne à présent vers Carmen Bernand. Je rappelle que vous êtes historienne et anthropologue, professeure émérite d'anthropologie à l'Université Paris 8 Nanterre. Vous êtes spécialiste de l'histoire du Nouveau Monde et des sociétés métisses d'Amérique latine, ainsi que de la réception des conquistadors par les Amérindiens. Vous avez publié plus de 20 livres sur les Incas, la religion, la musique d'Amérique du Sud, et le plus récemment, vous avez notamment publié « L'Amérique latine précolombienne des premiers peuples » à Tupac Amaru, paru en 2023 aux éditions Belin. Alors, pour revenir à Charles Quint, la question donc, qui se pose à partir du traité de Tordesillas, donc de 1494, est-ce qu'il veut cet empire parce qu'il y voit une mission presque téléologique, j'allais dire, ou est-ce que c'est une opportunité financière, ou est-ce que c'est quelque chose qui lui tombe un peu dessus?
Bon, je crois qu'il y a un peu de tout. Simplement, il faut se dire que le contrôle qu'on peut exercer depuis l'Espagne sur l'Amérique est impossible. Est impossible parce que il suffit de regarder la carte, il suffit de savoir que les difficultés de s'installer. Et donc, il va y avoir toute une série de gens, les conquistadors, qui vont faire l'empire de Charles Quint, mais qui sont quand même relativement autonomes. Relativement parce que de temps en temps, ils sont appelés. Ce qui est, par exemple, mettons, le Pizarro qui tue un empereur qui est Atahualpa, ça, c'est puni. part.
Alors, rappelons-le, donnons le contexte, Francisco Pizarro, donc, qui tue l'empereur Inca lors de la conquête en 1530.
Parce qu'il était en train, je pense que c'est vrai, d'une certaine façon, de faire une... trouver des gens pour le libérer, parce qu'il était prisonnier, et il s'entendait très bien avec Pizarro. Mais bon, il voulait quand même sa liberté. Et donc, il est condamné, on le trahit. Il y a des interprètes qui le détestent parce que, bon, ça c'est tout l'ordre différent qu'il y a dans le Pérou, c'est pas homogène. Et donc, il sera exécuté. Et ça, la couronne ne l'accepte pas.
Et juste pour revenir un tout petit peu en arrière, qui sont ces hommes? Qui sont les conquistadors? Est-ce que c'est une classe sociale particulière? Qui est Hernán Cortés, donc, qui s'empare du Mexique en 1524? Qui est Pizarro, qui s'empare du Pérou en 1530? Qui sont ces hommes?
Hernán Cortés, c'est celui qui est le plus instruit, d'une certaine façon. C'est un homme qui est allé un peu à l'université de Salamanca. Bon. Et il va à l'aventure, parce que c'est une opportunité par ces gens-là. On a parlé tout à l'heure de ce qu'était l'Estrémadour. Ça a été un lieu très difficile à vivre et très pauvre. Et donc, il part. Ça, c'est le cas de Cortés.
C'est Cortés. C'est quoi? C'est de la noblesse désargentée? C'est des petits fils d'Hidalgo?
Toute petite noblesse. Le cas de Pizarro est un peu différent parce que c'est un fils naturel d'un... capitaine qui a une certaine gloriole et qui se trouve aussi en Estrémadour. Donc, c'est différent, ses motivations. Et lui, il va avec ses frères parce que ce sont les seules personnes qui lui inspirent confiance. Alors, ce sont des gens qui sont des caudillos.
Et qu'est-ce que c'est pour nos auditeurs,
caudillos, c'est des gens qui recrutent parmi des personnes qui sont pauvres, qui n'ont pas d'argent, qui vont... et qui font leur conquête.
Mais c'est des chevaliers, c'est des bandits. Qu'est-ce que c'est qu'un caudillo?
C'est quelqu'un, oui, qui c'est un dirigeant, disons, un petit dirigeant. Alors le caudillo, qui est Pizarro ou Cortés ou d'autres, il y en a d'autres, il commande sur ses troupes. Alors, Charles Quint, il est très loin de tout cela. Il laisse faire parce que c'est la seule façon d'avancer.
Et vous parlez de l'Estrémadure. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une espèce de continuum psychologique entre la Reconquista et les conquistadors, au-delà des termes d'ailleurs?
Bien sûr, parce qu'ils font la même chose que leurs parents avaient fait dans le sud de l'Espagne. Chacun a son clan. Alors, ils recrutent parmi les plus pauvres des fidèles et comme ça, ils peuvent lutter.
Et combien de temps, je repense à la cartographie, donc combien de temps prend la traversée, cette projection vers une espèce de nouvelle Espagne, une nouvelle Andalousie?
Ça dépend un petit peu du bonheur qu'on a de ne pas essuyer de tempête ou de ne pas avoir d'avirie un peu grave. Je pense qu'en général, on a entre 3 et 4 mois pour aller jusqu'au Mexique et 6-7 mois pour arriver jusqu'au Pérou. Alors, ça veut dire quand même qu'aller-retour, faut couvre à peu près 2 ans. Ça donne une idée. C'est-à-dire, c'est quand même une nouvelle configuration que, avec Serge Grosinski, on appelle la mondialisation ibérique.
Oui,
c'est-à-dire que il y a une dilatation du monde qui est telle que la circulation des hommes et des biens couvre quasiment la planète. Parce que penser l'Amérique, comme on pense que ce sont les côtes proches de l'Asie, ça oblige à penser aussi l'Asie. Donc, quand on regarde cette cartographie du début du XVIe siècle, elle est globale.
Il y a une sorte de rupture dans l'espace-temps aussi, parce que vous le dites, c'est 2 ans aller-retour. Oui. C'est-à-dire que si Charles Quint envoie une lettre pour réprimander les conquistadors, le temps qu'il ait la réponse...
La situation a pu évoluer considérablement, en particulier par un certain nombre de morts ou d'assassinats.
La barbe de Charles Quint a poussé, entre-temps.
Mais c'est quelque chose... Cette gouvernance à distance, ça prend. Mais il n'y a pas que Charles Quint qui l'apprend. Tout le monde l'apprend en Espagne. Le Conseil des Indes l'apprend. Il faut apprendre à faire ce que j'appelle le bon casting, à envoyer les bonnes personnes. Parce que ce que Carmen disait sur les factions est essentiel. Tous ces gens-là partent et construisent, lorsqu'ils sont en Amérique, dans un degré d'autonomie qui est assez hallucinant quand même. Parce que, au fond, ce sont des hordes. Hein, en espagnol, on dit huestes. Ce sont des hordes de conquérants qui ne sont rien sans leurs appuis logistiques indigènes. Hein. Rien. Bon, et ils ont une supériorité technique, ça c'est sûr, mais la grande supériorité numérique, elle vient de leurs alliés indigènes, parce qu'ils pénètrent dans une géopolitique indigène où il y a déjà des situations de guerre.
Alors, Carmen Bernand, je me tourne vers vous, parce qu'avant de contrôler ces nouveaux territoires, il faut les conquérir. Qu'est-ce qui fait la supériorité militaire des Espagnols quand ils arrivent au Nouveau Monde? Pourquoi est-ce que des poignée d'hommes, finalement, que ce soit au Mexique contre les Aztèques ou au Pérou actuel contre les Incas, qu'est-ce qui fait que quelques poignées d'hommes, d'ailleurs combien sont-ils, écrasent, subjuguent des dizaines de milliers de soldats dans des empires très structurés?
Il y a d'abord l'effet surprise. On n'a jamais vu des gens comme ça, habillés comme ça. Ça, c'est un effet très important. La deuxième chose, c'est que ces empires, tout de même, sont des empires très particulier. Pour le Mexique, il y a des sacrifices humains. Et donc, les gens qui perdent des parents parce qu'il y a une fête et un sacrifice, il y a des descriptions terribles, ils se mettent du côté des Espagnols. Parce que c'est pas homogène. Du côté du Pérou, il y a une guerre civile interne entre Cusco et l'Équateur. Et donc,
ils s'insèrent dans cette politique locale.
Bien entendu.
Mais quand même, qu'est-ce qui fait leur supériorité? Est-ce que c'est la cuirasse? Est-ce que c'est la poudre? Bon, est-ce que c'est tout bonnement le cheval?
La poudre, oui. Mais la poudre, justement, on revient un peu à l'empire de Charles Quint. Elle vient des Grecs, de Rhodes. Il n'y en a pas beaucoup. Après, il y en aura, mais au début, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça surprend, ça fait peur. Et les chevaux aussi, parce qu'il n'y a pas de chevaux en Amérique. Alors, les chevaux, ça, pour nous, ça paraît peut-être anecdotique, mais pas du tout. Et donc, ça, c'est autre chose. Et puis, les sabres, parce qu'ils n'ont pas le fer. Enfin, ils pourraient l'avoir, mais ils sont pas arrivés à faire des instruments de fer. Et donc ça, c'est plus que les poudres, parce qu'il y en a pas beaucoup.
Et quel est le rapport de force, par exemple, si on prend le Pérou? Combien sont les conquistadors et combien sont les soldats incas?
On peut pas comparer, parce que si c'est une poignée les Espagnols, mettons 100 maximum. Et les autres, c'est énorme. Mais ils sont pris, justement, dans leurs propres contradictions. Alors, les uns veulent se faire des amis avec les Espagnols. Et là, il y aura des Indiens, par exemple, au Pérou, mais c'est vrai aussi au Mexique, qui vont s'allier aux Espagnols. Et les autres vont faire des razzias, vont résister. Jusqu'à la fin du...
Et à votre avis, personnellement, Charles Quint, qu'est-ce qu'il pense de ces Amérindiens, lui en tant qu'homme?
Bon, ça, c'est difficile de...
C'est des sauvages, c'est des sujets, c'est des futurs ouailles.
C'est sa mère, la Jeanne dite la folle, qui va faire des premières lois en faveur des Indiens. Au début, en 1511-12. Et donc, il y a tout de même un désir d'améliorer cette situation, de ne pas laisser à volo que des gens se servent des Indiens comme si c'était des bêtes de somme. Cet effort va exister. Simplement, c'est très difficile accomplir les choses. Accomplir, parce que c'est très loin. Et quand les autorités sont parties ou on peut les acheter, les choses changent.
Rappelons peut-être, Jeanne dite la folle, la mère de Charles Quint, est-ce qu'elle était réellement folle ou est-ce que c'est une construction un peu misogyne des historiens ou des contemporains? Est-ce qu'elle a vraiment le pouvoir finalement?
Elle a le pouvoir de signer, oui. Il y a toujours la signature de Jeanne.
C'est-à-dire que Charles Quint est régent du royaume de
voilà.
sa mère, en fait.
Et donc, elle est très importante pour Charles Quint. Et du reste, il sera très affecté de la mort de sa mère. Et peut-être ça a accéléré aussi la fin de sa vie.
Et du coup, pourquoi est-ce que Jeanne, dite la folle, s'intéresse au sort des Indiens, elle? Pourquoi est-ce qu'elle s'investit de cette question? C'est de l'humanisme, c'est de la compassion,
oui, parce
c'est de la foi.
Il y a quand même la grand-mère qui a aidé les Indiens. Et donc, elle a ce côté chrétien d'aider son peuple et ses Indiens. Elle n'est pas folle, pour revenir à la question, mais peut-être elle était dépressive. Je crois qu'une personne qui signe et qui fait quand même, qui existe du point de vue juridique, ne peut pas être complètement folle. Mais ça, c'est un peu ce qu'on dit un San Benito en espagnol qu'on a mis sur elle. Et donc, c'est une femme dépressive, mais qui de devoir, parce que c'est Isabelle la catholique, c'est son modèle.
Et alors, on en parlait juridiquement, du coup. Quel est le statut des Amérindiens? Qu'est-ce qu'obtient finalement la controverse de Valladolid?
Les Indiens ne sont pas des bêtes de somme. Il faut respecter un certain nombre de lois. Et ce sera.
Ce ne sont pas des esclaves?
Ce sont surtout pas des esclaves.
Est-ce qu'ils ont une âme?
Évidemment qu'ils ont une âme. Et donc, il faut qu'ils deviennent des chrétiens. Et donc, ils vont aussi se trouver dans la machine, disons, religieuse catholique, tous pratiquement, même si après, bon, ils accomplissent leur rite. Ça, c'est pas un problème pour eux.
Et donc ça, c'est le cadre juridique, le cadre moral. Mais en pratique, est-ce que Charles Quint parvient à imposer ce cadre à son nouvel empire, à la Nouvelle-Espagne, aux provinces?
En pratique, c'est plus difficile. Parce que c'est très loin, on l'a déjà dit, il n'y a pas de contrôle. Alors ça dépend un tout petit peu des situations. Simplement, il faut quand même rappeler que tout de suite, il y a des métisses. Et donc, une population qui n'est pas tout à fait espagnole. Et ça, il faut le dire, parce que c'est peut-être le cas le plus voyant de métissage. Il n'y avait pas de femmes. Pratiquement, qui venaient d'Espagne, personne ne voulait venir, aucune femme, vous vous imaginez. Bon, elles viendront quand même, mais elles sont minoritaires. Et donc, il y a une population très puissante de métis, c'est elle qui va exercer le contrôle plus que les autorités.
Et alors, donc les femmes veulent pas venir, mais par contre les hommes, les conquistadors se jettent à la découverte de ce continent. Et la question que je me pose, c'est quel est leur moteur? Est-ce que c'est la gloire? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est ce mythe de l'Eldorado? Quel est le moteur finalement de la soif de découverte territoriale? Je me tourne vers vous, Louise Benatacho.
Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Il est certain qu'à la base, il faut comprendre comment se monte une expédition. En général, elle est autofinancée, c'est-à-dire que la couronne ne met pas un centime, sauf pour les 4 premiers voyages de Colomb, qui d'ailleurs, pour les 2 derniers, n'ont pas coûté très cher. C'est surtout le deuxième qui a coûté très cher à la couronne. Sinon, la couronne ne met pas un centime. Ça, c'est un chroniqueur qui s'appelle Gonzalo Fernández de Oviedo qui le note explicitement dans sa chronique. Donc, il faut que on monte une expédition. On la monte financièrement. Alors, il y a plusieurs systèmes sur lesquels je vais passer. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que parfois, les gens sont endettés. Ou alors, ils espèrent bien se payer sur la bête. C'est-à-dire se payer au prorata du butin qu'ils vont trouver. Donc la dimension économique du butin de guerre, qui d'ailleurs s'inscrit dans le droit fil aussi de la reconquête, elle est majeure. La deuxième chose, c'est que au fur et à mesure qu'on se rend compte, parce que les premiers voyages aux Antilles sont pas terribles, mais ensuite, quand on découvre le Mexique puis le Pérou, là, l'enjeu est magnifié. Hein. Donc, ceux qui partent, non seulement veulent s'enrichir, et ils s'enrichissent parfois de façon spectaculaire et extrêmement rapide. Ce qui d'ailleurs interroge beaucoup. Les gens, les chroniqueurs par exemple, cet enrichissement où ça les rend presque fous, hein, ils perdent presque le sens, la raison. Bah, surtout au Pérou, hein, il y a un enrichissement très très rapide. Oui. L'autre chose, ce qu'ils cherchent évidemment, c'est, comme on dit en espagnol, ser más, c'est-à-dire aussi gagner du prestige. Parce que, au fond, ce sont des gens qui n'ont, comme l'a dit Carmen, en général de très basse extraction, qui n'ont pas grand-chose à perdre pour partir en Amérique. Neruda parle de la familia de los desposeídos, hein, c'est les dépossédés, ceux qui partent. Et donc, ils espèrent bien trouver un avenir, non seulement sur le plan économique, mais aussi de la reconnaissance sociale. C'est là, sans doute, où ils auront le plus de mal à se faire reconnaître en tant que conquérants. Très peu de titres de noblesse, par exemple, sont distribués. Très, très peu. Deux.
Et pour rebondir sur cette notion de prestige, Carmen Bernand, est-ce que Charles Quint, finalement, peut tirer gloire de son empire qui se dilate comme ça, qui englobe le monde, alors que au cœur même de son pouvoir, au cœur même du Saint-Empire, l'emprise de la couronne s'effrite et s'effondre. Je pense en fait à son échec face au protestantisme, à son échec à endiguer le protestantisme à la fois comme contestation religieuse et comme contestation finalement politique. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à cet empereur qui à la fois grandit et s'effrite de l'intérieur ?
Oui, oui, il y a un paradoxe, mais lui, d'une certaine façon, il délègue. Il y a des institutions et qui vont se charger de faire appliquer quelques lois. Il ne peut que déléguer parce que c'est impossible. Lui n'est jamais allé, il n'ira jamais, et aucun roi d'Espagne n'ira jamais.
Dans le Nouveau Monde.
Dans le Nouveau Monde, c'est une sorte d'image pour les gens qui habitent là-bas, pour les Indiens ou les Métis, de personnages qui n'existent pas en chair et en os.
Mais pour vous, qu'est-ce qui occupe les journées de Charles Quint le plus? S'il fallait regarder son travail quotidien, c'est un gros travailleur. C'est plutôt le Nouveau Monde ou c'est plutôt l'effondrement de l'Ancien?
Non, c'est l'effondrement de l'Ancien. C'est le problème des Turcs qui est très, ouais, très, très grave.
Et des protestants.
Et des protestants. Les protestants, ils arrivent à se dire, bon, peut-être Luther, enfin, il faudrait voir. Mais ce qui est terrible, c'est les Turcs. On oublie que c'est vraiment le danger, les Turcs qui vont arriver en Europe, en Hongrie, ils sont aux portes. Et alors, la Méditerranée, elle est très difficile à traverser, très dangereuse.
Cet effondrement de l'ancien monde que Charles Quint voit se passer presque sous ses yeux nous amène à notre troisième archive.
Ce matin, je croyais combattre l'épée d'une main, une truelle de l'autre. Il me semblait que soldats et maçons, je bâtissais un édifice qui ne s'écroulerait pas. Et le soir est à peine là que je vois la construction chanceler.
Non, sire. Il vous suffira de l'étayer. Vous pouvez agir vite et efficacement. Supprimer sans tarder ce que le téméraire Ulrich de Houten, le maudit pamphlétaire, avait le front d'appeler la liberté de conscience. Tout sera sauvé.
Rien ne serait sauvé. Évêque, vous voulez élever des bûchers? Ne croyez pas que leur flamme consumerait les idées. Ils ne serviraient à rien, je vous le répète, tout est à recommencer, tout est toujours à recommencer. En attendant, je vais plutôt songer à réunir une diète à Augsbourg. Et j'y proclamerai la liberté des cultes. Je veux tenter cela. Peut-être qu'alors cette jeune fille, cette Saxonne inconnue, cessera de mourir de soif. Marguerite, par pitié, faites appeler mes écuyers qu'on me débarrasse de cette armure. Elle m'écrase.
France Culture. Ils ont changé le monde. Les envahisseurs. Alfred de Montesquieu.
venons d'écouter un extrait de Charles Quint ou L'Empire impossible de Pierre Laffût, interprété par Serge Reggiani en 1956. Pour parler de cette postérité de Charles Quint, son ouverture religieuse, paradoxale qu'on vient d'entendre, cet homme de la mondialisation sanglante et du capitalisme extractif, une vision du monde qui demeure d'ailleurs cruellement d'actualité, je me tourne vers Louise Benatacho. Je rappelle que vous êtes ancienne élève de l'École normale supérieure, professeure émérite de l'Université Paris-Sorbonne, chercheuse associée au laboratoire de recherche Masquipo sur les mondes américains, sous la double tutelle du CNRS et de l'EHESS. Vous êtes spécialiste de la modernité ibérique, également appelée « première mondialisation ». Et vous avez notamment publié avec Bernard Lavallée « L'Amérique de Charles Quint » ainsi qu'une édition critique de « La Historia de las Indias » de Francisco López de Gomara, publiée à la Casa de Velázquez en 2021. Pour revenir au personnage et à son tiraillement, est-ce que vous pensez que Charles Quint a été célébré culturellement à la hauteur de son pouvoir, de son prestige, de son impact sur l'histoire ?
Ah, c'est une question bien compliquée.
Je suis contente de l'avoir posée.
Non, parce que si on regarde ses contemporains, moi je vais surtout prendre le point de vue de l'Espagne, qui est celui que je connais un peu. Charles Quint n'a pas de grand chroniqueur.
Voilà. Non.
Ça, c'est un truc curieux quand même.
De grands peintres, de grands musiciens.
Alors, peintre, on peut parler du Titien quand même.
Oui. Hein,
mais de grands chroniqueurs qui feraient... parce que si on regarde Sepúlveda, qui a fait une chronique, elle ne sera pas éditée. Paez de Castro, il ne va rien écrire. Guevara, etc. Enfin, on est devant un grand empereur, une personnalité qui est au cœur de cette brèche, de cette bascule, qui est aussi cette espèce de désenclavement de l'Europe, hein, à l'échelle du monde. C'est un moment tout à fait fascinant à étudier. Et en même temps, il n'a pas de grand chroniqueur.
Et pardon, je rebondis, oui. Vous parlez du Titien, mais est-ce que le Titien, est-ce que n'importe quel peintre de cette deuxième Renaissance va se représenter mentalement le Nouveau Monde ? Est-ce qu'il y a la moindre... tableau du Titien qui montre un Inca.
Non, on est d'accord. On a juste des gravures qui vont orner les publications, les éditions des chroniques, par exemple. C'est vrai qu'il y a. On est encore dans une phase. Il faut comprendre que l'émergence du Nouveau Monde, il y a à peu près 60 années de conquête, n'est-ce pas ? Entre 1492 et 1550, la pacification par le président Gasca des guerres du Pérou, qui ne met pas vraiment un terme aux guerres du Pérou d'ailleurs, Carmen, tu es d'accord. Et donc, on a 60 années de conquête, c'est-à-dire que quand Charles Quint, en 56, se retire, on est au bout d'un cycle de conquête. Le Nouveau Monde a des rythmes très différents, se stabilise avec, de point de vue institutionnel. Et le grand constructeur, le grand baliseur du Nouveau Monde, des Indes occidentales, ce sera Philippe II.
Oui.
Bon. Donc il est encore, c'est un empire presque en chantier que celui de l'Amérique. C'est un empire extrêmement conflictuel. Il y a des guerres entre, je vous le disais, entre les factions de conquérants en permanence. Oui. Il n'y a pas une expédition de conquête qui ne se double de règlement de compte entre conquérants et où la couronne doit prendre des décisions avec les écarts de temps et d'espace dont on a parlé. Et en quelque sorte, le nombre de conquérants qui sont tués, assassinés, pendus, exécutés de mille façons ou jetés à la mer, il y a rien qui ne se passe bien.
Et alors, on parlait de la Casa de las Indias. Comment se passe concrètement le pouvoir expansionniste de l'Empire de Charles Quint ? Est-ce que c'est la couronne d'Espagne qui gère le Nouveau Monde ? Ou est-ce qu'en fait, il y a, comme vous disiez, une forme de délégation de pouvoir ?
Mais il y a une délégation, bien sûr, mais c'est bien la Casa de la Contratación, d'une part, qui est fondée tout de suite. Hein. Alors là, l'opération commerciale, elle est faite immédiatement pour la gestion et de la navigation et de tous les échanges entre le Nouveau Monde et l'Espagne. C'est la Casa de la Contratación, qui est un grand centre de recherche aussi, au niveau de la cartographie et de la formation des pilotes, qui fera école en Europe. Hein. On est d'accord. Mais il y a son pendant à Lisbonne.
Oui.
Parce que les Portugais, sur cette question, sont aussi performants, voire davantage d'ailleurs, que les Castillans, au moins au début. Et ensuite, il y a effectivement les grandes assemblées, les juntas, et le Conseil des Indes qui va gérer. et le Conseil des Indes. Par exemple, les questions américaines, elles sont gérées par l'Espagne et par Isabelle de Portugal. Parce qu'en fait, Charles Quint, il est rarement en Espagne.
Oui.
Il passe beaucoup de temps ailleurs. C'est pour ça que toute la correspondance est intéressante. Vous la connaissez mieux que moi. C'est quelqu'un qui est en permanence en train de faire du lien par la correspondance, parce qu'il passe très peu de temps en Espagne.
Alors justement, Guillaume François, vous la connaissez mieux que quiconque, disons, en tout cas autour de cette table. Qu'est-ce que ça nous raconte, la correspondance de Charles Quint ?
Ah, bien, c'est une correspondance qui est extrêmement riche, extrêmement multiforme aussi. On parlait à l'instant d'Isabelle de Portugal, qui est l'épouse de Charles Quint et qui assume de grands pouvoirs de régence quand son mari est absent. Il faut savoir que sur tout son règne, Charles Quint n'est présent en Espagne que 6 ou 7 ans maximum. Donc c'est et de manière très discontinue. Donc effectivement, la plupart des actes de gouvernement se passent à distance, par correspondance, et le tout sur des sujets extrêmement variés. Donc on a des correspondances avec son épouse, avec les différents présidents, si je puis dire, des conseils de gouvernement, qui sont quand même 6 ou 7 thématiques, et les différents vice-rois et gouverneurs des provinces et des royaumes à travers l'Europe. Donc c'est quelque chose qui est très complexe et très multiforme.
Et on sait que Charles Quint avait pas fait des études très poussées, il a regretté toute sa vie de pas bien parler le latin. Mmh. Quand il correspond avec son épouse, ses chefs de gouvernement, c'est en quelle langue pour le coup ?
C'est en grande partie en français, un petit peu en espagnol une fois qu'il sera maîtrise cette langue, mais il n'aura jamais de vraie correspondance en latin. Son latin, c'est plus un latin d'église, on va dire. Voilà. Donc, pour langue numéro 1, le français, langue numéro 2, l'espagnol.
Et donc, paradoxalement, est-ce que ça veut dire que la conquête du Nouveau Monde a été gérée administrativement en langue française, ou est-ce qu'à un moment, elle était traduite quand elle arrivait à Séville
Non, là, je crois que la conquête du Nouveau Monde a été gérée en langue espagnole, je pense. je voulais juste revenir sur le séjour, si c'est possible, séjour de Charles Quint en Espagne. Il reste 7 ans d'affilée, c'est la plus longue période où il reste, je crois, dans les années 20.
Et
ensuite, oui, c'est ça. Et ensuite, il va revenir à un moment très important pour l'histoire du Nouveau Monde, qui est les années après son échec d'Alger. Il y a un grand.
Alors, rappelons ce que c'est que l'expédition d'Alger.
Alors, je rappelle premièrement la grande victoire contre le Turc, c'est à Tunis, 1535, où là, on a l'impression que vraiment il est le fer de lance de la chrétienté victorieuse contre l'Empire ottoman.
Et le conquérant d'un troisième continent, il est en train d'ouvrir l'Afrique, après l'Europe et l'Amérique.
Et l'échec catastrophique du siège d'Alger, qui tourne très mal et qui va, je crois, impacter beaucoup sur la vision qu'il a de sa mission providentielle. Cet échec d'Alger, la flotte qu'il avait, il avait quand même drainé une flotte gigantesque qui passe par l'Italie et par déloger les barbaresques et Barberousse, parce qu'on n'a pas parlé de Barberousse, mais enfin bon, voilà.
Barberousse, donc le chef des corsaires
qui travaillent pour le sultan.
C'est ça.
Lui-même d'origine gréco-albanaise.
Il est albanais. Voilà. Et donc là, il y a toute une réflexion chez les Espagnols sur ce corsaire qui pourrit la vie de la navigation des bateaux espagnols dans la Méditerranée occidentale. Et la prise d'Alger est une prise stratégique. Or, il va échouer lamentablement. Oui. Je signale au passage que dans cette prise d'Alger, il y a Cortés dans un des bateaux. C'est sa dernière bataille. Et donc
la cartographie est fluide. On peut revenir des Amériques. Pour aller s'occuper d'un autre continent.
Bien sûr.
Tout s'imbrique.
Et en 1542, c'est-à-dire l'année suivante, il y a cette fameuse réunion de révision du Conseil des Indes avec ces lois de 1542. Et ces lois de 1542, elles sont un tournant dans l'histoire de l'Amérique et je pense dans l'histoire du droit international aussi, parce que c'est le fruit de ce travail très pugnace et très efficace de Las Casas, de Bartolomé Las Casas, qui a réussi à faire entendre la voix qu'on a entendue tout à l'heure dans le premier extrait, c'est-à-dire de la défense des Indiens et du droit des Indiens, du droit naturel des seigneurs indigènes. Et là, on va avoir une série de lois On ne peut pas rentrer dans les détails parce qu'il faudrait une émission très longue, mais des lois qui vont...
En quoi est-ce que c'est une telle rupture ?
C'est une rupture parce que ça met en cause, d'abord ça abolit définitivement l'esclavage des Indiens, ça interdit toute une série de travaux qui tuaient les Indiens vraiment de façon drastique, et surtout oui, la pêche des perles par exemple, et surtout ça réduit jusqu'à son extinction un système qui régissait tout le continent, qui était le système de la encomienda, c'est-à-dire on livre des Indiens à un Espagnol qui les fait travailler, c'est une espèce de refondation du système féodal de servage. Et la encomienda est tellement néfaste pour les Indiens qu'elle va être réduite, elle est attaquée par ces lois. Et cette destruction de la encomienda, ou en tout cas cette menace qu'on fait peser sur la encomienda, a des effets en Amérique qui sont les révoltes.
Et
révoltes des conquérants.
Tout à fait. Mais pour parler peut-être des effets en Espagne, enfin dans l'Empire proprement dit de Charles Quint, est-ce que, paradoxalement, l'immense richesse que génère le Nouveau Monde, que génère le Nouvel Empire, a été bénéfique à Charles Quint, à son pouvoir, à sa société ? Ou est-ce qu'il y a eu quelque chose, finalement, d'assez... oui, paradoxal, c'est-à-dire finalement presque un appauvrissement ou un affaiblissement de l'Espagne à travers ses conquêtes.
Mais il y a deux, c'est toujours pareil, il y a deux visions. Hein. Oui. Il y a une vision immédiate, c'est-à-dire les butins, la rançon d'Atahualpa. Bon, c'est des tonnes d'or, des tonnes d'argent qui arrivent. Et ça, c'est immédiatement investi pour les campagnes militaires, par exemple. Oui. Donc, il y a un effet immédiat. Et je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Le fait à plus long terme, c'est-à-dire sur l'investissement productif, on dirait aujourd'hui, en Espagne, là, c'est vrai que c'est complètement défaillant. Parce que les capitaux privés, le plus souvent, servent à devenir ce qu'on appelle en espagnol « señor de vasallos », c'est-à-dire à acheter des terres improductives qu'on ne peut pas produire, à faire construire un palais, à avoir un régime de vie de quelqu'un de riche et de prestigieux, et non pas à investir. Si bien que l'argent américain, mais ça c'est surtout vrai après, va être drainé à part les banquiers génois, etc., à travers l'Europe.
Et va affaiblir finalement.
L'Espagne, riche en apparence, va lentement s'appauvrir dans son tissu productif.
Et donc, ultime question peut-être, est-ce que ce Charles Quint, qui quand même abdique, renonce au pouvoir, est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui a regretté finalement l'expansion coloniale ?
Je dirais pas. Je pense qu'on ne peut pas regretter l'expansion coloniale quand on est catholique, apostolique et romain.
Oui. Mais pourtant, cette conclusion que vous venez de lancer nous amène assez naturellement à entendre notre dernier extrait, qui est la chanson préférée de Charles Quint, celle qu'il a bercée dans son enfance et qui s'appelle « Mille regrets ». Elle est adaptée ici en messe chantée par Cristobal de Morales, pour honorer l'empereur lors de sa visite au pape en 1536. C'est la fin de cette émission consacrée aux grands défricheurs de la mondialisation. Merci Guillaume François, merci Carmen Bernand, merci Louise Benatacho d'avoir été avec moi pour décrypter la figure à la fois triomphale et triste de Charles Quint. C'était le sixième épisode de notre enquête sur les envahisseurs, une série d'Alfred de Montesquieu préparée par Sophie Leiner avec les archives de l'INA, réalisée par Rafik Zénine, avec à la technique aujourd'hui Manon Houssin. Vous pouvez retrouver toutes nos références bibliographiques et réécouter cette émission en podcast sur l'appli de Radio France.